Alors, comme vous le savez, j'espère, nous allons aujourd'hui regarder la figure de Judith. Enfin, il y a une femme. Nous avons entendu une très beau commentaire rapide sur la maman de Samuel, Anne, lorsque Samuel nous a été présenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très, très court mais magnifique. Et c'est un travail, alors là, pour le coup, que vous pouvez faire, c'est de lire l'Écriture, et notamment l'Ancienne Alliance, en recherchant justement toutes les grandes figures de femmes. L'autre jour, une paroissienne qui a découvert la foi assez récemment, pleine d'ardeur, me disait « Ah oui, j'ai commencé à lire la Bible ». J'ai lu la Genèse, mais alors au Deutéronome, j'ai craqué, j'ai abandonné. Et je comprends, moi aussi. Hein. Moi aussi, il vaut beaucoup mieux. C'est un peu plus difficile, mais c'est beaucoup plus fructueux et ça permet de tenir au long cours. Il vaut beaucoup mieux commencer à lire avec des questions ou avec un thème ou en cherchant quelque chose. Parce que si vous lisez l'Écriture sans chercher quelque chose, au bout d'un moment, c'est comme si, j'allais presque dire, c'est comme si vous ouvriez un livre en chinois, comme ça. Vous voyez, vous allez vous arrêter très vite. C'est l'expérience de tout le monde. C'est quand on est déjà bien familiarisé avec la parole de Dieu qu'on peut alors entrer dans la Bible comme ça, par n'importe quelle page ou n'importe quel ou par un livre comme ça, en y entrant dedans, parce qu'on connaît déjà la maison, si vous voulez. Tandis que là, vous allez vous épuiser. Nous épuisons très vite. Donc il faut mieux chercher quelque chose. Et par exemple, ça peut être très beau de lire l'Écriture, de prendre un livre, donc le Deutéronome, par exemple, en y cherchant la trace des femmes. Ça peut être intéressant. Ou bien l'amour de Dieu, ou la lumière, ou la joie, quelque chose que vous cherchez, ou bien le remède à la tristesse. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses dans le Deutéronome, mais si on cherche, on trouve. Mais si on cherche, si on n'a pas de questions, on lit, et puis 3 minutes après, on a déjà oublié ce qu'on a lu, parce qu'on ne cherchait pas. Vous voyez, il faut que notre esprit et notre cœur soient en état de... Comment dit-on quand en arrêt, comme un chien devant un buisson. Faut qu'on soit en arrêt, prêt à sauter. Et alors, quand on cherche, dès qu'on lit une phrase où il y a quelque chose qui se... Tout de suite, on le repère. Tandis que si on ne cherche rien, on ne repère rien. C'est un peu une lapalissade, mais malheureusement, on l'oublie un peu. Donc voilà, je vous rappelle, cherchez avec moi, dans l'Écriture, il y a un certain nombre de grandes figures féminines. Évidemment, la première de toutes, c'est Ève. Et puis ensuite, alors bien sûr, il y a l'épouse de Caïn et les autres, les fils de Noé, mais elles ne sont pas très mises en lumière, toutes ces épouses. Elles passent un peu à la trappe. Il y a Sarah, Rebecca et Rachel, les trois grandes épouses des trois grands patriarches, et qui jouent un rôle très important, ces trois femmes. Il y a Sipora, la femme de Moïse. Puis il y a la sœur de Moïse, très important, Myriam. Alors, on pourrait jouer un petit jeu, je vous dirais, j'aurais dû vous interroger, comment s'appelle la femme de Moïse, hein, j'aurais dû vous imposer, comment s'appelle la sœur de Moïse. Et puis il y a d'autres femmes qui vont plus alors, se rapprocher de Judith. Il y a Déborah, qui est une femme guerrière. Il y a la fille de Jephté, dont on ne connaît pas le nom. Et puis il y en a d'autres, il y a Sisara, et puis il y a Esther, Anne, la mère de Samuel, il y a l'épouse du Cantique des Cantiques, évidemment très importante. Alors, est-ce une personne individuelle qui a existé? Alors, le Cantique des Cantiques, c'est un cantique poétique, donc, mais enfin bon, il y a la figure de l'épouse du Cantique des Cantiques, il y a l'épouse d'Osée, hein, Osée a aimé son épouse qui était une prostituée. Dieu lui a demandé d'épouser une prostituée pour donner tout un message de son amour pour son peuple et pour nous. On l'oublie un peu, et puis ainsi de suite. Donc cherchons. Et puis aujourd'hui, Judith. Alors, je vous résume l'intrigue du livre de Judith, et c'est pas très long, il y a 16 chapitres. Je vous conseille vraiment de lire tout ce petit livre après l'introduction de ce matin. Donc, en gros, si vous voulez, Nabucodonosor, roi des Assyriens, a déjà conquis, il a gagné une grande victoire, seulement il veut se venger de ceux qui ne l'ont pas soutenu dans cette victoire, et donc il se met en bataille avec une armée gigantesque contre tous les peuples qui n'ont pas voulu s'allier avec lui, pour une sorte de représailles, de vengeance. Et il se croit, c'est un point important du livre de Judith, Nabucodonosor se croit en fait Dieu lui-même. Il se prend pour Dieu. Il va dominer toute la terre de manière violente par son armée. Et ceux qui ne sont pas avec lui, il va les détruire ou les soumettre, les réduire à l'esclavage. Et c'est ce qui se passe avec son général en chef, Holoferne. Il s'étend partout, il conquiert tout de manière violente. Tous les peuples sont soumis, sauf qu'à un certain moment, il y a un petit peuple, le peuple d'Israël, qui voit venir cet énorme raz-de-marée extrêmement dangereux, mais qui voit que le temple de Dieu, le temple de Jérusalem et l'autel de Dieu et Jérusalem, la ville sainte, vont être donc conquis, voire détruits. Et là, ils prennent la décision de dire non, nous allons combattre, nous allons résister. Et il y a une passe dans la montagne qui est tenue par une petite ville des Hébreux qui pourrait empêcher l'armée de Nabucodonosor et d'Holoferne de passer. Et donc, il demande à cette ville de tenir la passe. Vous voyez, on pourrait faire un film là-dessus. Et s'ils tiennent cette passe dans la montagne, très étroite, ou justement là, avec un petit nombre, ils peuvent arriver à résister à un grand nombre, eh bien, Jérusalem sera protégée. Donc vous voyez, l'enjeu est énorme. Il y a un enjeu de foi, mais aussi de préserver le temple qui, supposé, vient d'être reconsacré, parce que vous savez que Jérusalem a été conquise et détruite, et le temple de Dieu a été détruit. Je n'entre pas dans les détails historiques. Ce n'était pas intéressant ici. Alors, on va voir plus tard ce qui se passe. Ceux qui l'ont lu ou ceux qui connaissent quand même un tout petit peu savent l'intrigue. C'est que... alors, je dis tout de suite, ce livre-là, quand on le regarde, quand les historiens le regardent du côté historique, ça ne tient pas, parce qu'il y a plein de détails historiques qui ne sont pas cohérents. Et il y a plein de détails géographiques qui ne sont pas cohérents. Le cadre historique ne tient pas, le cadre géographique ne tient pas. Donc, ce qui apparaît comme un récit extrêmement bien fait historique, en fait, n'en est pas un. Ne prenons pas ça, et ce n'est pas le but de nous donner un compte-rendu journalistique ou historique de faits s'étant passés tels qu'ils sont relatés ici dans l'histoire de Judith. Non. En réalité, tout le monde est bien d'accord qu'il s'agit ici d'un récit qu'on appellera, si vous voulez, allégorique, qui veut traduire un message, qui veut transmettre un message. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est extrêmement bien composé, on s'y croit. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce récit. Et l'auteur du livre de Judith, dont on ne sait rien, compose en quelque sorte un monde extérieur en prenant des éléments de ci, de là, qui sont plausibles, qui sont vraisemblables, mais qui, semble-t-il, ne correspondent que de très loin à des faits historiques documentés de l'histoire passée d'Israël. Et il fait une orchestration pour mettre en pleine lumière un thème fondamental du livre de Judith. Et quel est ce thème fondamental? Eh bien, c'est le salut d'Israël par la confiance en Dieu et le triomphe de Dieu, ainsi que le pouvoir de la prière et le courage. Donc je répète parce que c'est ça. Bon, quand vous lirez ou le lisant, vous verrez tout de suite, évidemment, nous comprenons tout de suite qu'il s'agit de ça. Il s'agit du pouvoir de la prière, de l'intercession, et du courage, parce que le peuple des Hébreux montre au début du moins du courage, puis ensuite le courage se concentre dans une seule personne qui va sauver tout son peuple, c'est le courage de Judith. La confiance en Dieu de Judith, d'abord du peuple, mais qui abandonne, qui perd courage, qui perd pied, qui tremble de tous ses os, et puis le courage de Judith, la confiance en Dieu de Judith, et puis finalement le triomphe de Dieu à travers l'action de Judith. Voilà le thème du livre. Et alors, à part ça, il y a toute une orchestration qui permet de mettre en lumière le message. Alors, pourquoi peut-on dire ça? Le nom lui-même de Judith dit déjà, Judith, c'est la juive, hein, par excellence. Judith, c'est la juive. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui aurait vraiment existé, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut penser que le livre de Judith a pour origine lointaine, peut-être un fait réel, arrivé sous la domination perse, donc Nabucodonosor, mais dont il n'est pas possible de préciser la date et les circonstances. La tradition aura progressivement idéalisé les événements et les personnages afin que l'héroïne sans peur fût aussi sans reproche. On voit bien que c'est un Français qui a écrit ça, hein, sans peur et sans reproche, et que l'ennemi des Juifs apparut comme le rival de Dieu. Alors voilà, le thème du livre se concentre sur une opposition entre la lutte entre les puissances du mal, symbolisées par Nabucodonosor et son armée, et le Dieu d'Israël. Alors au milieu de ce récit, il y a deux discours théologiques tellement bien fait qu'on se demande comment les protagonistes auraient pu sortir ça comme ça. Il y a un certain, alors je ne peux pas donner tous les détails à cause du temps, il y a un certain Achior qui est un païen, un ammonite, et qui se paye le toupet de donner une leçon de théologie à Holoferne. Il a quand même un certain courage, et il se fait éjecter à cause de ça. Et quand vous le lirez au chapitre 5, vous verrez qu'en fait, Achior tient un propos très théologique qui est très inspiré du Deutéronome. C'est la théologie du Deutéronome que je résume en une phrase. Si Israël suit les voies de Dieu et est fidèle à la loi de Dieu, eh bien, il vivra dans le bonheur, il aura la vie et le succès, il sera sauvé. Et si Israël s'éloigne de Dieu, se détourne de Dieu, eh bien, il sera livré aux mains de ses ennemis. Ça, c'est un refrain constant dans la première alliance. Et c'est justement, le livre de Judith veut encore, de manière encore plus explicite, mettre en lumière ce dilemme et ce choix d'Israël dans une situation dramatique. Et puis, il y a Judith. Alors, cette femme, elle est extraordinaire parce que non seulement elle est une femme d'action qui a un courage faramineux, fantastique, mais en plus elle est théologienne. Alors là, chapeau, chapitre 8, parce que généralement les théologiens ne sont pas forcément toujours des hommes d'action et des hommes très courageux, enfin ça dépend, hein, mais voilà, on ne peut pas avoir tout dans la vie. Chapitre 8, alors hélas, je ne peux pas vous tout lire, mais lisez ça bien attentivement, elle fait carrément une leçon, elle gourmande, elle réprimande les chefs de son peuple, parce que ils sont bloqués, les Assyriens ont réussi à couper la source d'eau, et donc évidemment sans eau on ne tient pas très longtemps, donc au bout de 34 jours le peuple est épuisé, ils n'en peuvent plus, ils ont perdu tout courage et ils vont supplier les chefs de se rendre, et les chefs de la ville, Bethuli s'appelle cette ville, disent finalement bah oui, mais laissons quand même encore, je cite, hein, Ozias, « Ayez bon courage, mes frères, et attendons pendant 5 jours, encore 5 jours, la miséricorde du Seigneur, car peut-être mettra-t-il fin à sa colère et donnera-t-il gloire à son nom. Ces 5 jours passés, si le secours n'est pas venu, nous ferons ce que vous nous avez proposé, à savoir se rendre et abandonner la ville au pillage et devenir esclave des Assyriens au mieux, sinon être trucidé. » Et alors Judith, ayant entendu ça, elle se lève et dit « Mais comment ça? Pas question d'abandonner la confiance en Dieu. » Et alors là, elle vous fait quelque chose d'extraordinaire. Non, non, frères, n'irritez pas le Seigneur notre Dieu, car s'il ne veut pas en ces 5 jours venir à notre secours, il a le pouvoir, lui, de nous protéger au jour qu'il voudra, comme de nous exterminer à la face de nos ennemis. Vous donc, n'exigez pas de gage sur les desseins du Seigneur notre Dieu, car on ne peut menacer Dieu comme un homme, ni se le concilier comme un fils d'homme. C'est pourquoi, en attendant avec patience le salut qui vient de lui, appelons-le à notre secours, il écoutera notre voix si cela lui plaît. C'est Judith qui parle. Donc la confiance jusqu'au bout. Même si Dieu nous extermine, enfin, permet que nous soyons exterminés, c'est lui qui permettra et nous devons continuer à espérer en sa miséricorde. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive avec, en disant, mais j'ai un plan, je vais agir, mais vous ne savez pas ce que je vais faire, ne me demandez pas, laissez-moi agir. Et alors, c'est la deuxième partie du livre de Judith, où là, tout est centré sur Judith. Première partie, c'était tout centré sur Nabucodonosor et Holoferne qui attaquaient, le danger qui monte est imminent jusqu'au paroxysme. Deuxième partie, Judith. Alors, dans ce livre, je note aussi, c'est très intéressant, à la différence de livres qui sont aussi des livres, si vous voulez, des récits théologiques, comme Jonas ou Tobit. Vous voyez chez Jonas et Tobit des tas d'interventions merveilleuses de Dieu. Il y a le poisson, il y a l'ange Raphaël, etc. Dans le livre de Judith, rien de tout ça. Ceux qui agissent, ce sont les hommes et les femmes. Judith, elle agit. Et puis, il n'y a pas d'intervention explicite, visible de Dieu. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de merveilleux. Tout est laissé, apparemment, enfin, à l'initiative humaine. C'est aussi très intéressant comme livre, de ce point de vue-là. Alors, Judith, comme c'est une femme de prière et de foi, une fois qu'elle a gourmandé et arrêté le dessein des chefs du peuple d'Israël de livrer la ville au bout de 5 jours si Dieu n'est pas intervenu, elle se met en prière. Alors je vous cite sa prière par rapport au chapitre 9, verset 4. Une petite partie seulement, c'est une longue prière. « Ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la veuve que je suis. » Alors en plus, Judith, oui, je ne l'ai pas dit, mais vous le découvrez en lisant, elle est veuve. Donc, bon, elle est riche, elle a du bien, mais elle est veuve. Et elle n'a pas d'enfant. Donc, elle est elle-même dans une situation de très grande fragilité et vulnérabilité, parce qu'être veuve en Israël, c'était vraiment être presque au banc de la société. Alors, ça dépendait si on avait du bien ou pas, mais elle est toute seule, avec ses servantes et sa maison, mais elle est seule. Elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la veuve que je suis, c'est toi en effet qui as fait les choses d'hier, d'aujourd'hui, de demain, le présent et l'avenir, tu les as conçues, et ce qui est arrivé, c'est ce que tu avais dans l'esprit. Les choses que tu as projetées se sont présentées, et elles ont dit, nous voici, car toutes tes voies sont préparées et tes décrets prévus. Donc elle s'en remet au Dieu créateur, et au Dieu Providence. Rien n'échappe à sa main. Alors ensuite, elle détaille sa prière. Il faut lire, c'est une très belle prière. Quand vous ne savez pas comment prier, prenez la prière de Judith. Et elle prie régulièrement, et notamment, elle prie, alors vous savez, grosso modo, je résume l'intrigue, Judith prend son courage à deux mains, elle va dans le camp des ennemis, et elle se présente comme celle qui veut échapper à la destruction en coopérant avec l'ennemi pour prendre la ville. Donc elle est une déserteuse. Et elle séduit, parce qu'elle est très belle, c'est dit de nombreuses fois dans le livre, elle est très belle, puis elle a mis tous ses atours, elle a mis le top de tout ce qu'elle avait, sa robe Chanel et je ne sais pas quoi. Et elle séduit tout le monde, les Assyriens, notamment Holoferne, qui l'accueille et qui écoute son langage, parce qu'elle lui dit, voilà, mon Dieu va me dire quand est-ce que les gens de Béthulie vont mourir de soif et sont prêts à se rendre, et moi je vous montrerai le chemin pour saisir la ville sans coup férir. » Et Holoferne entre dans ce jeu parce qu'il est tellement séduit qu'il veut la garder dans son camp pour elle la séduire. L'orgueil, la vanité d'Holoferne, c'est très intéressant. Holoferne dit à ses serviteurs, si elle part de chez moi sans que j'aie couché avec elle, je vais passer pour un complètement nul aux yeux de toute mon armée, c'est pas possible. Donc il faut qu'elle reste dans le camp, évidemment. Et donc Holoferne lui permet d'aller prier tous les soirs dans le ravin pour invoquer son Dieu. Donc elle sort tranquillement, elle va et vient dans le camp. Et puis finalement arrive ce qu'elle a prévu, c'est-à-dire que Holoferne l'invite à un grand festin en vue de la séduire. Alors elle garde sa nourriture juive, elle ne boit pas du vin d'Holoferne, mais Holoferne boit, il est complètement dans son rêve et dans son désir. Il boit, il s'enivre, il s'endort avec Judith auprès de lui. Elle prend le cimetière d'Holoferne, parce que tout le monde s'est écarté, évidemment, pour respecter Holoferne, hein, la nuit, et puis elle lui tranche la tête. Bon, ça, tout le monde connaît ce récit, j'espère. Elle lui tranche la tête alors qu'il est complètement enivré et complètement endormi. Et puis, elle sort, comme tous les soirs, avec sa servante pour, supposer, aller prier avec la tête d'Holoferne dans son sac. Oui, c'est une femme. Voilà. Et puis, elle va, alors voilà, elle rejoint son peuple, et alors là, le peuple n'en peut plus d'étonnement. Il loue le Dieu très haut, il loue Judith, et Judith leur dit, ben voilà, au matin, préparez-vous, mettez-vous en garde, préparez-vous. Et puis, alors évidemment, l'armée d'Holoferne complètement en déroute, parce qu'ils découvrent le matin leur général en chef décapité. Et alors là, ils sont complètement perdus, et les Juifs peuvent les chasser et les poursuivre. Et c'est la grande victoire. Alors, qu'est-ce qui est intéressant et important dans ceci, à part ce que j'ai déjà souligné, et c'est que, en fait, nous sommes dans un livre qui parle de la victoire et du combat, et qui veut préparer Israël au combat futur, et notamment, comme disent les théologiens, au combat eschatologique, hein, la fin, la victoire finale, parce que Nabucodonosor représente donc le mal par excellence. Et cette figure de Judith, c'est une veuve samaritaine qui prend en fait le rôle de chef d'armée. Elle devient chef d'armée, mais l'armée des humbles et des débiles. C'est ce qui est dit exactement en chapitre 16, versets 11 et 12, hein, dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, d'ailleurs, sauf erreur. Alors les humbles de mon peuple poussèrent des cris retentissants, les faibles de mon peuple hurlèrent, et l'ennemi fut terrifié. Ils élevèrent la voix, et l'ennemi tourna bride. Des fils de frêles jeunes filles les transpercèrent, ils les blessèrent comme rejetons de déserteurs, et les voilà tués dans la bataille de mon Seigneur. Donc c'est la bataille de Dieu, et Dieu remporte la bataille à travers les faibles et les débiles. Et Judith se met parmi eux, parmi les faibles. Donc la délivrance, en fait, dans le cœur de Judith, la délivrance ne doit rien à Israël, elle est exclusivement le fait de Dieu, le Tout-Puissant, le briseur de guerre, comme on va le lire dans le texte. Et cela est manifesté par le fait que la victoire est obtenue par la main d'une femme seule. Ce sont les humbles et les faibles qui vont régner, ceux qui n'ont rien d'autre pour eux que leur confiance en Dieu, et en qui Dieu aime précisément manifester sa puissance. Alors, je répète cette conclusion. Ce sont les humbles et les faibles qui vont régner, ceux qui n'ont rien d'autre pour eux que leur confiance en Dieu, et en qui Dieu aime précisément manifester sa puissance. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, il y a peut-être une nouvelle Judith quelque part, hein, qui montre que Dieu se manifeste, manifeste sa puissance à travers les humbles. Et effectivement, pour terminer, je voudrais évoquer Judith comme figure de la Vierge Marie, de Marie. C'est le fameux renversement des puissants et l'exaltation des humbles, qui est déjà un thème de plus en plus présent dans la première alliance, dans Judith, chez les prophètes, de plus en plus présent, et qui aboutit dans la première alliance à ce qu'on appelle la théologie des Anawim. Alors, Anawim, c'est un mot hébreu qui veut dire les pauvres. Les Anawim de Dieu, c'est les pauvres de Dieu. Le petit reste qui, par lequel Dieu va agir et que Dieu va sauver de sa main forte. Et ça, on a ça constamment. C'est aussi un thème qu'il est bon de chercher en lisant l'Écriture. C'est, par exemple, vous avez l'histoire de... Alors maintenant, j'ai un doute. C'est Gédéon, hein. Il ne va pas remporter la victoire avec des centaines de milliers de soldats ou des dizaines de milliers. Il va en choisir simplement le petit reste, les 300 qui vont être sélectionnés. Et simplement avec 300 qui sont sélectionnés d'une très curieuse manière parce qu'ils vont laper l'eau dans le torrent à quatre pattes, il va remporter la victoire. Et bien ici, c'est toujours le même thème. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Magnificat. Je vous lis la louange que Ozias, le chef de la ville, dit sur le coup quand Judith revient avec la tête d'Holoferne dans la nuit. Tout le peuple fut saisi d'une grande stupeur et s'inclinant, ils adorèrent Dieu et dirent tous ensemble « Béni es-tu notre Dieu, toi qui en ce jour as réduit à néant les ennemis de ton peuple ». Donc, c'est très théologique, vous voyez, tout de suite, le peuple bénit Dieu et pas d'abord Judith. Et ensuite, il se tourne vers Judith. Ozias lui dit, écoutez bien, « Béni es-tu, fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes qui sont sur la terre, et béni le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui t'a dirigé pour frapper à la tête » pour frapper la tête du chef de nos ennemis. Pour frapper la tête du chef de nos ennemis. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Alors, oui, mais... mais ça, c'est pas dans l'Apocalypse, ça. Non. C'est dans... C'est où? Où est-ce? Écraser la tête, c'est où est-ce? Voilà, on y approche. C'est dans la Genèse, c'est la promesse. Oui, mais ça, je comprends que vous parliez de l'Apocalypse, parce que justement, il y a une correspondance entre la Genèse et l'Apocalypse. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, la Bible. C'est une grande symphonie, et il y a des thèmes musicaux que l'on retrouve, mais évidemment modifiés, hein, comme dans une grande symphonie de Mozart. On retrouve les thèmes musicaux, mais qui s'enrichissent progressivement. Donc, Dieu a promis à Ève, ta descendance lui écrasera la tête. Elle, lui, te mordra le talon, mais tu lui écraseras la tête. Et on a ici frappé la tête du chef de nos ennemis. À la fin du chapitre 13. Voilà. Une présentation du livre de Judith. Je m'arrête. Je vous encourage évidemment à le lire en entier. Je ne développe pas la figure de la Vierge Marie, mais avec tout ce qu'on a dit, vous pouvez comprendre. Et ça va être justement le thème de notre petite étude, qui sera aussi Lectio Divina. Donc le texte que nous allons lire ensemble, c'est le chapitre 15 de Judith, chapitre 16, tout le chapitre 16, le dernier chapitre.